Écoutez Radio Campus 106,6 FM, l'émission Quoi de Neuf, comme chaque mercredi entre 16h et 18h. Cinquième séquence de cette émission, elle va nous entraîner dans un milieu assez particulier, peut-être un peu mystérieux, qu'on va découvrir. Il s'agit des arts martiaux. On va parler aujourd'hui de judo, j'imagine, enfin de spécialité et d'une en particulier avec un grand maître qui s'appelle Saïd Idri. Saïd Idri, bonjour.
Bonjour à vous.
Donc, votre expérience dans ce domaine des arts martiaux est longue et impressionnante. On peut peut-être faire un petit peu le tour de qu'est-ce qui vous a amené à ces arts martiaux, lequel vous a semblé intéressant pour aller plus loin, approfondir votre chemin et qu'est-ce que cet art a apporté à votre vie?
Alors, j'ai commencé les arts martiaux en 1964 et ce qui m'a amené dans ce milieu-là, c'était juste apprendre à me défendre, apprendre à utiliser un petit peu les arts martiaux pour gagner une certaine confiance, mais plus pour se défendre. Et lorsque j'ai commencé, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur, un grand professeur, qui s'appelait Roland Yol. Il nous a quittés il y a quelque temps. Et il m'a donné l'amour de l'aïkido au départ, du judo. Et ensuite, je suis passé avec un autre maître qui est toujours là, qui est un grand maître japonais qui s'appelle Hiro Mochizuki. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler style karaté, mais le style Yoseikan Budo. C'est un style du Japon, de Shizuka. Et à partir de là, on a commencé à développer cet art. Et depuis les années 65, je n'ai plus jamais quitté. Comme je dis quelquefois un peu d'une manière un peu, comment je vais dire ça, avec le sourire, c'est un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais jeune.
Alors, donc, cet art martial particulier, hein, qui est celui que vous...
C'est le Yoseikan Budo qui fait partie de la famille du karaté.
D'accord. Et on peut l'apprendre en France ou est-ce que c'est au Japon ou
ce non, serait non, non, mieux non, pour l'aborder? Non, on l'apprend en France. Il y a des milliers de pratiquants en France. Pour la région Nord-Pas-de-Calais, j'en suis le directeur technique. Et au niveau de la France... Le maître Mochizuki est toujours présent et il nous apprend toujours cet art qui a été exporté dans 32 pays.
Mmh. Donc lui, il est japonais, il vit en France ou il vient de temps en temps?
Non, il a importé. Alors, l'histoire de maître Mochizuki est un peu longue. Il est venu en 57. Son père l'a envoyé du Japon en 57 en France pour... faire découvrir ce qu'était le karaté. Et c'est lui qui l'a amené dans les années 57-58. Ensuite, il l'a développé. Il est venu avec une méthode qui était le Wado Ryu, parce qu'il y a plusieurs écoles de karaté, plusieurs styles. Il a amené le Wado Ryu et à partir de là, il l'a développé. Et il a développé la Fédération française de karaté qui aujourd'hui est énorme, compte plus de 250 000 adhérents. Mais de différents styles. Et le maître Mochizuki est toujours là. Et il a créé le Yoseikan Budo parce qu'il a estimé qu'il fallait amener une touche supplémentaire de... Je ne vais pas dire de nouveauté, mais un peu du contrôle physique pour ne pas que les adhérents, les pratiquants se fassent mal et qu'ils développent le côté... combat, mais tout en préservant le côté physique de la personne.
Voilà, donc c'est un art du combat. Est-ce que c'est un sport?
D'abord, c'est un sport. Pour commencer, c'est un sport. Mais c'est un sport qui appelle à une certaine discipline très rigoureuse. C'est pour ça qu'on dit que c'est un art martial. C'est devenu un art martial parce que, justement, il y a différentes méthodes qui vont vous obliger à avoir une vie particulière, avoir une façon de vivre, une façon de penser, une façon de même de se nourrir. Donc, avec le temps et avec la maîtrise des techniques que l'on apprend tous les jours, quand je dis bien c'est tous les jours, avec la maîtrise des techniques, ça finit par devenir un art, et c'est un art martial.
Donc, ces arts martiaux, au départ, ceux qui sont pratiqués du moins au Japon, hein, est-ce qu'ils sont démarrés dans un contexte particulier? Donc, pour vous, votre expérience était pour vous affirmer, vous sécuriser, etc. Mais est-ce qu'au Japon, c'était déjà cette philosophie-là ou est-ce qu'il y avait autre chose derrière, spirituelle?
Ah non, le Japon avait cette philosophie parce qu'ils avaient cette... ils sont partis en Chine. Et lorsqu'ils ils ont importé de Chine cette manière de combattre, ils l'ont développée. Et chaque région du Japon développe son style. C'est pour ça que les styles, le nom de chaque style, c'est simplement le nom de la région à laquelle il a été, dans laquelle il a été développé. D'accord. Ou par le professeur qui l'a émis. Mais c'est une discipline totale. Parce que, contrairement à nous, occidentaux, on met ça un petit peu... dans le style sportif, martial peut-être, discipline aussi. Mais le Japon, c'est toute une vie. On vit dedans, on travaille dedans et on meurt dedans. On va très loin, on ne sort pas. Une fois qu'on est rentré dans ce style d'arts martiaux, ça devient une philosophie de vie.
Bon. Donc on a compris qu'il y a un côté disciplinaire, ou discipline plutôt. Est-ce qu'il y a un côté disciplinaire aussi?
Oh, je dirais que non. Le côté disciplinaire, c'est plutôt se faire discipline sur soi-même pour justement continuer à apprendre, continuer à développer, à maîtriser chaque mouvement, chaque geste pour qu'il devienne parfait.
Alors, est-ce qu'il y a à la fois le mouvement, la force et le mental qui interviennent ensemble ou comment ça s'organise? Il y a vraiment une interdépendance entre ça?
C'est une interdépendance très, très serrée. Vous ne pouvez pas développer un côté physique si le mental ne vous suit pas. On dit toujours, et je pense que c'est un grand maître japonais qui l'avait dit à l'époque, si le mental est malade, le physique n'est pas bon. Si le physique est malade, le mental ne suivra pas. Donc forcément, on va soigner le mental, mais on va soigner le physique pour qu'ils aient un ensemble. Et cet ensemble, justement, c'est ce qu'on appelle la discipline. C'est discipliner pour que l'un utilise l'autre pour compléter forcément le mouvement, la pensée, et il ne faut pas le faire dans tout azimut. Il faut que ça devienne quelque chose de presque de une pensée, ça finit par devenir une pensée, mais le physique rejoint la pensée.
Donc quand on vous voit, enfin quand là je vous vois, je vous regarde, hein, j'ai l'impression d'une certaine sérénité, une paix intérieure qui peut se transformer d'un seul coup en énergie de lutte, de combat.
Ah, forcément, on acquiert, je vous ai dit au départ quand je me suis lancé dedans, c'était plus pour me défendre, pour me battre et ainsi de suite. Mais avec le temps, on se rend compte du travail fourni. Et forcément, le mental finit par prendre le dessus et on va acquérir une certaine confiance, une certaine motivation de la vie. On aime la vie, on aime ce que l'on fait et on va avoir une assurance, on aura une certaine estime de soi parce que on s'est forcé, on s'est forgé, on a été au bout de du mouvement, mais aussi de la douleur parfois pour acquérir ce geste. Et forcément, on a cette confiance en soi, cette discipline du corps et de l'esprit. Quand vous dites, vous pouvez vous transformer, oui, j'ai confiance en moi, j'ai confiance à la vie, j'ai confiance à ce qui m'entoure. Mais si demain, ma vie ou quelqu'un de mes proches était en danger, forcément, je deviendrai une furie.
Donc pour des jeunes qui sont peut-être en difficulté ou du moins en déséquilibre plutôt, ça peut leur apporter la partie qui manque en les stabilisant d'une certaine manière, en leur donnant une force plus globale et qui donne un bien-être supérieur au moment où ils sont dans des difficultés. Ils peuvent sortir un petit peu de cette ornière.
Alors c'est l'une de mes plus grandes satisfactions justement, c'est d'avoir formé des jeunes qui étaient quelquefois à la dérive. Et en faire des gens complets, compétents, et surtout sur d'eux. Et ça, c'est une satisfaction magnifique. Lorsque il y a des milliers de gosses que j'ai formés, qui aujourd'hui sont dans toutes les couches sociales, si on peut dire ça comme ça, dans tous les travaux. Je rencontre des policiers, des gendarmes, des bureaucrates, des toutes sortes de gens qui, aujourd'hui, ont réussi. Mais ils ont réussi grâce, justement, à ce travail de fourmi qui est à la base, travailler l'esprit et le physique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Si il y a un des deux qui est déséquilibré, l'être humain n'est pas formé correctement. Et c'est ce qui nous permet, justement, d'avancer.
Alors, pour les personnes qui intègrent les lieux de formation à ça et qui seraient un peu inquiètes ou pas rassurées parce qu'elles sont fragiles ou frêles, est-ce qu'on peut les rassurer en partie ou est-ce qu'il faut déjà avoir une force, une puissance avant d'arriver ?
Non. Alors là, je tiens à dire d'une manière certaine, quel que soit le physique de la personne, il va le développer et il va en faire un corps parfait, un corps magnifique. Non, il n'y a pas de contre-indication. J'ai toujours, moi, et bien que maintenant je me trompe, j'ai toujours, on commence de 7 ans à 77 ans. Aujourd'hui, on peut aller avant 7 ans, puisqu'on commence à ça vers 4-5 ans, et on peut aller au-delà. Le maître Mochizuki a 89 ans. Aujourd'hui, il est toujours sur le tapis, toujours pratiquant. J'ai moi-même, je dirais, j'ai 74 ans, je suis toujours sur un tapis comme un gamin. Et j'ai toujours l'impression d'être un gamin sur un tapis.
Est-ce qu'on peut donner une idée des tapis dans la région de France ou est-ce qu'on en trouve des intéressants, des beaux espaces ?
Non, mais là, je dirais tout simplement dans toutes les villes du Nord-Pas-de-Calais. Dans chaque ville, il y a un dojo, il y a un centre d'entraînement. Alors, je dirais, il y a du karaté, il y a du sekken budo, du kempo, du taijitsu, du judo. Donc forcément, on trouvera... L'avantage du Hyōseikan Budo, c'est que ça permet aux combattants, aux pratiquants, de découvrir ce qui l'intéresse davantage. Parce que dans le Hyōseikan, il y a l'utilisation des armes, des pieds-poings, de la projection, de l'esquive, d'utiliser toutes sortes d'armes. Donc forcément, on finit par trouver ce qui nous convient le mieux.
Donc, quand on voit ce que vous pratiquez, hein, souvent c'est dans des lieux adaptés, des salles, il faut quand même des tapis, etc. Est-ce qu'il y a, récemment, une récupération de ce que vous pratiquez pour les médias, le showbiz, ou est-ce que ça reste quelque chose entre initiés ou entre personnes qui veulent travailler ensemble, mais sans esprit trop commercial?
Non. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est la récupération, elle n'est pas... j'utiliserai pas le terme récupération, mais je dirais plutôt utiliser. Alors, ça peut être des agents de services de sécurité, ça peut être des policiers, ça peut être des militaires, ça peut être une personne lambda qui va simplement avoir le plaisir d'utiliser la technique pour le combat. Donc, et j'irai même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, la self-défense, les dames, les femmes sont de plus en plus friandes de ce genre de travail parce qu'elles ont besoin de s'affirmer, de se défendre, d'être un petit peu rassurée par elle-même en cas de mauvaise rencontre. Et malheureusement, ça arrive. Et je conseillerais à toutes les dames possibles d'apprendre ce genre de travail. La self-défense ne fait appel à tout système de défense. Alors, quand on dit les arts martiaux, il y a une règle, il y a une... il y a des dogmes qui sont très importants pour dire de continuer à le développer. Mais dans la self-défense, c'est justement se défendre en cas de mauvaise rencontre. C'est ça l'avantage. Et c'est vrai qu'on peut dire que c'est récupéré, mais ce n'est pas une récupération. C'est l'utilisation des moyens qui nous sont donnés.
Alors, est-ce que ces disciplines entrent aussi dans, par exemple, les Jeux Olympiques? Est-ce que ce sont des disciplines reconnues ou...
Oui, vous prenez le judo, le taekwondo, ils sont olympiques. L'année passée, il y a l'Olympiade auparavant, il y a eu le karaté qui a été mis à l'honneur aussi. Et malheureusement, cette année, le karaté n'est pas aux Jeux Olympiques, pour des raisons un peu politiques qui n'ont pas été reprises. Là, je ne rentre pas là-dedans parce que c'est une discussion qui serait trop longue à faire. Mais je trouve que le karaté a sa place dans les Jeux Olympiques.
Donc Saïd Idriss, en Jeux Olympiques, vous avez quand même réalisé des rencontres mondiales en région?
Oui, j'ai eu le plaisir de rencontrer pas mal de grands monsieur, de personnes magnifiques. Je travaille avec le maître Mochizuki, Dominique Valera, Jean-Pierre Lavorato, Christian Kloss. Je vais en oublier pas mal de gens de magnifiques. Mais bon, j'ai eu l'occasion de voyager dans le monde entier et de rencontrer des gens admirables.
Qu'est-ce qu'on pourrait créer comme événement en région qui présenterait d'un certain côté, organiserait des ateliers de l'autre et puis donnerait pour les curieux une connaissance un peu plus approfondie que ce qu'on s'en dit là?
C'est votre question est judicieuse et je dirais que je suis content de l'entendre. Samedi 18 mai, on fait venir à Carvin, dans le complexe régional de Carvin, un monsieur qui s'appelle Mehdi Fellali, champion du monde de karaté. Et il va venir pendant toute une journée initier les jeunes, les moins jeunes, et l'après-midi faire un stage avec les hauts gradés pour découvrir justement l'art de combattre d'un champion du monde. Et j'invite toutes les personnes qui seraient intéressées de voir ce genre de manifestation à venir. L'entrée sera gratuite et l'initiation sera magnifique.
Donc, Carvin, c'est une ville qui a pris, on va dire, qui a donné une certaine priorité à ce style. Ou il y a par exemple le dojo de Verquin que vous connaissez peut-être aussi.
Le dojo de Verquin, c'était la semaine dernière. Il y a eu les championnats de France de karaté où j'y étais. Il y a eu plus de 250 combattants. Ça a donné une image de la jeunesse, justement. Et tout âge, ça a commencé à, je crois, 14 ans jusque senior. Mais ça a permis à tout le monde de montrer ce qu'il savait faire. Ça a été une superbe rencontre dans une magnifique salle qui a été justement créée pour ça. Et Verquin va devenir un peu le dojo régional des Hauts-de-France.
Alors, Saïd Idri, vous êtes né, me semble-t-il, à Ouagny ?
Non.
Non ?
Non, non, je suis né sur les montagnes de Kabylie.
Oui, mais après, vous êtes arrivé à Ouagny ?
Je suis arrivé à Ouagny en novembre 58. Et Ouagny, qui est le berceau des sportifs, parce que, bon, vous avez Michel Jazzy, vous avez Guy Dru, vous avez Michel Bernard.
Pourquoi Ouagny ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ouagny, parce que mon père était mineur. Et il avait sa maison à Ouagny, donc on est resté là. Mmh. Et je n'ai jamais voulu. J'ai été professeur avec professeur d'arts martiaux avec Roland Yol pendant 30-40 ans.
Mais ces grands sportifs que vous venez de citer, pourquoi ils sont d'un seul coup, ils viennent de là et qu'est-ce qu'il y a un foyer d'émulation ?
Il y avait un vivier parce que, si vous voulez, on avait l'un des meilleurs stades de région qui a été construit par les mines. À l'époque, ils avaient une certaine facilité de faire le sport.
Oui.
Je me suis inscrit là-bas à 9 ans, dans l'étoile de Ouagny, au stade de Ouagny, qui est aujourd'hui d'ailleurs a été baptisé stade Guy Dru.
Très bien. Alors, j'imagine que pour les gens qui travaillaient, il y avait peut-être des horaires aménagés déjà à cette époque.
Oui, il y avait des horaires aménagés. Il a eu un vivier magnifique. Les meilleurs basketteurs sont ici d'Ouagny. Les meilleurs... l'athlétisme vient de Ouagny. Les meilleurs, les footballeurs viennent, beaucoup de footballeurs viennent de Ouagny. Les volleyeurs, les handballeurs. Donc, on a eu quand même un vivier magnifique.
Mm-hmm.
Malheureusement, avec la chute des houillères, mm-hmm. ça a un petit peu perdu son charme. Mais Ouagny restait une ville sportive. Alors, aujourd'hui, je dirais que Ouagny et Carvin se complètent énormément. Mais... Pourquoi Carvin ? Parce que j'en suis le directeur technique de la région.
Ah oui.
Et j'enseigne à Carvin.
D'accord.
À partir de là, j'ai fait passer Carvin en priorité.
Et donc, vous l'aviez dit aussi, à Verquin, ce dojo peut avoir une importance européenne ?
Je pense qu'il va le devenir. Il va devenir d'une importance capitale. Parce que c'est une salle qui répond à toutes les exigences. D'abord, les tapis, on peut mettre 12 tapis, 12 aires de combat. 12. C'est énorme. Ensuite, il peut accueillir des milliers de gens à côté. Et ce qui est magnifique, c'est que les salles d'entraînement, de préparation, tout autour de cette salle de compétition, ont été mises en place pour justement répondre à ce besoin. Et cette salle de Verquin, je pense qu'elle deviendra une salle pour les Hauts-de-France, c'est une certitude, mais je pense qu'elle va devenir d'abord au niveau national, et elle risque de devenir même au niveau européen, oui.
Voilà, donc des bonnes nouvelles pour la région de France.
Voilà, je rappellerai juste le samedi. Alors le samedi, c'est la venue de Mehdi Fellali. Ça se fera le matin de 9h à midi pour les enfants et ensuite de 14h à 17h pour les adultes. Et là, on va découvrir un petit peu le parcours d'un combattant qui a atteint quand même le sommet du monde dans le karaté.
Donc ce parcours, il passe par des dânes, j'ai cru comprendre.
Alors oui, il passe par des dânes. Ça, c'est une... Alors je vais peut-être vous donner la primeur. J'ai le privilège, la chance et l'honneur d'avoir réussi mon passage de grade du 8e dan.
Bah, toutes mes félicitations.
Merci. J'ai été très honoré d'être corrigé par Dominique Valera, Jean-Pierre Lavorato et Ichiro Hase, qui ont été les trois personnes qui sont dixièmes dans tous les deux, tous les trois, qui m'ont contrôlé pour l'obtention de ce huitième.
Est-ce que pour vous, c'est une consécration finale ou vous aspirez au dixième?
Alors, je vais vous dire, le dixième, je ne suis pas pressé parce que je ne veux pas vieillir. Je veux rester encore pratiquant. Mais ce huitième dan est pour moi une consécration, une reconnaissance d'un travail de 60 ans de tapis. Et j'en suis doublement fier parce que j'ai tout fait pour l'avoir et j'ai aussi donné tout ce que je pouvais pour que les gens qui m'entourent puissent grimper en même temps que moi. Parce que ce n'est pas la meilleure solution de monter à ce niveau-là et de laisser les autres derrière. Il faut que les gens qui travaillent avec moi me suivent et qu'ils aient aussi leur part de gloire, entre guillemets.
Si j'ai bien compris, c'est un chemin avec un parcours, hein, on va dire du combattant, forcément un peu. Et puis, c'est un sentier parfois de la gloire à la fin. Et puis, ça donne à une vie une consistance.
Ça donne à une vie un but. Vous savez, je ne sais pas qui a dit « Visez la lune, si, même si vous n'y arrivez pas, au moins vous toucherez les étoiles. » Donc, si on a un but dans la vie, on sera toujours plus fort pour aller plus loin. Et on essaie d'être le mieux possible pour que justement ce but, on l'atteint d'une manière ou d'une autre. Et même si on ne l'atteint pas, on aura déjà fait un sacré parcours. Alors, quand vous dites c'est un parcours du combattant, moi je dirais que c'est un parcours de plaisir, d'amour, même s'il y a des blessures, une épaule luxée, un nez cassé, une côte fêlée, des orteils, des doigts, alors qu'ils ont tous cassé. Mais je pense que je n'ai aucun regret là-dedans.
Saïd Idri, merci.
C'est moi qui vous remercie de votre accueil.